au temps des Maccabées. Donc, à partir de maintenant, c'est ça qu'on va commémorer. La question qui s'est posée, c'est le diagnostic. Est-ce qu'on est arrivé à l'événement de signification Hanouka? Vous suivez? Est-ce que c'est clair? Alors, le problème qui va rester un peu mystérieux, c'est que, sauf historiquement, c'est bien 25 Kislev que ça a eu lieu. Est-ce que c'est clair? Disons que depuis toujours, le rabbin de la tradition dont je parle, de cette tradition-là, savait que c'était un 25 Kislev, ça aurait lieu. Mais il ne savait pas dans quelle année, à quelle époque, à propos de quel événement. Lorsque l'événement est arrivé, discussion au Beit Din. Est-ce que ça y est, c'est maintenant? Oui. Certains ont dit non, peut-être pas. Et puis finalement, la tradition a tranché. Oui, c'est irréversible. Ce qui s'est passé dans le conflit entre les Juifs et les Grecs, c'est ça le Hanouka absolu. Cette renouvellation du temple, ce jour-là, de cette année-là, c'est ça le Hanouka absolu. Et ceux qui étaient d'avis contraire se sont trompés et ont disparu. Je pense à Yom HaTzmaout. Et vous avez compris ce que je veux dire. Que dans le temps contemporain, il y a place pour perplexité. Il y a place à la perplexité. Et c'est très compréhensible. Et que avant de voir, on ne voit pas. Mais se devenir définitivement aveugle, c'est trop. Vous savez que quand une lumière est trop aveuglante, alors on ne la voit plus. On dit que c'est une évidence aveuglante, alors on est aveuglé. Alors quand on vit des évidences aveuglantes, on ne voit pas. C'est le handicap des contemporains. C'est tellement évident qu'ils ne voient plus. Comme on dit le verset des psaumes, des yeux ils ont, mais voir ils ne voient pas. Enaïm lahem veloïru. Vous savez que dans la prière, on a prié depuis 2000 ans. Vetechezena enenu. Et fais voir nos yeux quand tu reviendras à Sion. Pendant 2000 ans, on a prié. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand ça arrivera, fais qu'on voit. Vous avez compris? Il y a beaucoup de gens qui ne voient pas. Non, je vais parler de ça puisque j'en parle et j'ai vu que tu as une question à poser. Par exemple, pendant 2000 ans, on a prié pour que Jérusalem soit reconstruite. Vous avez remarqué à quel rythme ça se reconstruit? Et il y a des gens qui ne voient pas. Alors, qui c'est qui reconstruit Jérusalem? Pendant 2000 ans, on a dit à Dieu, Ouvenez Jérusalem, Rirakodesh, Gomerab Yavel. Alors voilà, Jérusalem est construite et personne ne voit que Jérusalem est construite, se construit. Vous comprenez? Qui c'est qui construit Jérusalem? Solel Bonnet. Vous savez qui c'est Solel Bonnet? Une entreprise de travaux publics israélienne qui s'appelle Solel Bonnet. Eh bien, c'était dans la Tfila. Donnez Yerushalayim à l'élu. Hein? Non, mais je te parle de Jérusalem. Mais alors, vous voyez comment ça peut arriver? Tous ces juifs qui voient que Jérusalem se construise et qui ne voient pas que c'est arrivé. Bon, je dis ça, il faudrait pleurer. Je dis ça en rigolant, mais il faudrait pleurer. Et parce qu'ils n'ont même pas des yeux pour pleurer, puisqu'ils n'ont pas des yeux pour voir. Vous voyez à quel point c'est dramatique, les contemporains. Bon. Alors, revenons au problème. Vous voyez, ce qui affole les orthodoxes, c'est que Dieu se sert de Teddy Golek, le maire, Teddy Golek, pour construire Jérusalem. Ça les affole. Et alors, on va donner des leçons au bon Dieu, il sait ce qu'il fait. Et en plus, il y a un blasphème. Le jour de Kippour, dans le rite ashkenaz, quand on fait al-het, le vidouille, la confusion des fautes, il y a al-het shehatanu betimhon levav. Ça veut dire la faute que l'on fait quand on s'étonne. Timhon levav, c'est l'étonnement. C'est une grave faute de fauter en s'étonnant. Le Rav Kook nous a expliqué ça comme ça. Il y a des gens qui s'étonnent que Dieu a pris les sionistes pour reconstruire Jérusalem. Mais c'est une grave faute de s'étonner de ce que Dieu fait comme il le fait. Ça veut dire que non seulement on n'a pas la foi, mais on est insolent, on demande à Dieu, tu ne peux pas faire ça autrement. Vous voyez ce que je veux dire? Il sait ce qu'il fait, sur ce. Et voilà, je vous donne un exemple. C'est clair? Par rapport à Yom HaTzmaout. Okay. Alors, le jour de Yom HaTzmaout, les contemporains sont en perplexité. Qu'est-ce qu'on fait? Alors, ceux qui ont des yeux, ils voient. Ceux qui n'ont pas des yeux, ils pleurent. C'est clair? Bon. Tout ça vient d'ailleurs d'une perte de diagnostic de la cohérence des événements en leur temps. Et on a beau leur dire, ouvre le gant de Vilna. Ils ont pour le gant de Vilna un respect absolu. Ils se mettraient à genoux devant si les juges se mettaient à genoux. Ces mêmes juges qui refusent Yom HaTzvaout. Et alors, on se voit, là, c'est écrit dans le gant de Vilna. Alors, ils disent, peut-être que c'est pas le gant de Vilna qui a écrit. Ça se trouve dans un commentaire que le gant de Vilna a donné sur Sifra d'Itinurata, une des Mishnayot du Zohar. Il a donné la date exacte de la proclamation de l'État et il fait jurer à ceux qui lisent ça, avant que ça arrive, de ne pas le dire avant que ça arrive. Enfin, ça pourrait affoler les populations. On aurait des questions comme ça, alors la destinée. Mais la réponse est très simple. Et réfléchissez que c'est le jour de la Bar Mitzvah, c'est le jour de la Bar Mitzvah. Okay. Bon. Et un homme normal fait sa Bar Mitzvah le jour où il faut, ni avant ni après. Alors on peut dire à quelqu'un quel sera le jour de sa Bar Mitzvah. Je vous donne un exemple encore. Ça y est, c'est clair. Alors, je vous donne un exemple encore plus simple. Si j'apprends qu'une femme est enceinte, premièrement je dis Mazal Tov. Eh bien, je sais que si tout se passe bien, c'est dans 9 mois qu'elle aura un enfant. Qu'est-ce que je suis prophète? Et que si elle n'est pas libre d'avoir son enfant, eh bien, c'est ce jour-là qu'elle a son enfant. Et c'est clair, c'est pas plus mystérieux qu'autre chose.
Conditionnement
naturel. Si tu veux. Ouais. Bon. Alors, ça y est, on peut avancer. Qu'est-ce que tu veux dire?
Non, quand vous dites, par exemple, c'est le jour de Hanouka, comme le jour de Hanouka, c'est
normal. Qu'est-ce que tu veux, que Hanouka tombe à pourri? Je dis c'est normal. Alors ça nous a paru mystérieux.
Non, mais vous allez sur quoi quand vous dites c'est normal?
C'est normal, parce que je vais te dire. Ouais. Mais je vais donner d'autres explications après. Et ça nous paraît mystérieux, anormal, épouvantable, et je ne sais pas quoi. Et pourquoi? Parce qu'on a perdu ce sens du temps traditionnel. Voilà, c'est ça que je voulais expliquer d'abord. Alors maintenant, on avance quand même dans les explications. Alors, postulat, prenez ça comme postulat. Et le Midrash va nous dire, depuis le premier homme, on fêtait Hanouka, mais sans lui donner comme exposant historique un événement qui n'était pas encore arrivé, c'est-à-dire la victoire des Maccabées. Lorsqu'a eu lieu la victoire des Maccabées, alors la tradition décidée, c'est ça, l'événement de Hanouka. Et regardez cette cohérence, parce que jusque-là, on aurait pu hésiter. Il y a eu des événements que je vais vous citer. Le 25 Kislev, et qui aurait pu être le Hanouka, avant. On a dit non, c'est pas encore ça. C'est pas encore ça. C'est pas encore ça. Quand c'est arrivé cet événement historique-là, le Bet Din de Matatiaou à Hashmonaï, Kohen Gadol, a décidé, mes enfants, on y est. Et il y avait des anti-Hashmonaï, comme il y a aujourd'hui des anti-sionistes. Vous suivez? Quand le Rafour a décidé, le père, a décidé l'État d'Israël, avant que ça existe, l'État d'Israël, mes enfants ont nié, c'est le commencement du temps messianique, tous les rameurs ont rigolé, sauf ceux qui n'ont pas rigolé. Et cependant, les événements ont bien montré qu'il avait raison. Okay? Lui, il est mort avant la proclamation de l'État d'Israël. Okay? Ben, il a dit, ben, c'est ça, on y est. Il faudra dire Hallel. Okay? Vous voyez ce que je veux dire? Comme au temps du Kohen Gadol Hashmonaï. Je sais que Rakou était Kohen, non? Voilà. J'ai pas dit que c'est Matatiaou qui est revenu. J'ai pas dit le contraire. Alors, bon, grosso modo, voilà dans quelle cohérence il faut penser ces problèmes. C'est-à-dire que Hanouka est connu, que c'est le 25 qui se lève. Et puis, il n'y avait pas encore l'événement qui donnait à ce jour son sens au niveau de l'histoire. Mais ce jour avait déjà son sens depuis toujours au niveau du jour. Vous suivez d'abord. Vous comprenez bien cela? Voilà. C'est vrai de tous les jours de commémoration. Et j'ajoute, comme j'ai dit tout à l'heure, vous devinez qu'il y a encore beaucoup de jours qui n'ont pas rencontré leur événement. Mais on les connaît. Et on sait quel événement.
Comment
peut-on les connaître? Eh bien, on ne dit pas, on parle pas tant que ce n'est pas arrivé. Ça y est, alors posez pas de questions. Hein. Il peut venir à Pessah. Il peut venir n'importe quel samedi soir. Il peut venir n'importe quelle sortie de fête. Okay? Maintenant, quand est-ce qu'il viendra vraiment? Eh bien, vous verrez bien.
Mais
dans
quelle
église? Dans quelle? Mais tout ça, c'est oral. Vous n'avez pas entendu parler de la tradition orale? Très souvent, quand nous enseignons ces choses-là, qui sont apprises oralement, il y a des gens qui nous demandent « Mais où c'est écrit ?» Alors un jour, je me suis énervé et j'ai répondu « Je vais l'écrire, comme ça vous saurez où c'est écrit. » Pas chou, et moi d'où je sais. Je vais vous raconter une histoire de racine. J'ai vu. Il n'y a pas moyen que tu oublies ta question. Et vous savez, quand le mouvement des chassidim a commencé, les mitnagdim qui s'y opposaient, c'était les érudits de l'époque, et puis qui méprisaient un peu ces chassidim ignorants qui ne savent pas étudier le Talmud, mais qui savent danser, chanter et danser. Okay. Vous apprendrez ça au début de la chassidim. Vous avez déjà appris la chassidisme en histoire. Alors, l'ironie de l'histoire, c'est qu'aujourd'hui, les plus grands des Talmudistes sont des chassidim. Enfin, parmi les plus grands des Talmudistes, il y a beaucoup de chassidim. Okay. Et alors, là, par exemple, un qui vient de mourir il y a quelques années, qui était Rav à Jérusalem, le Rav Zevin, c'était l'encyclopédie talmudique vivante, un chassid. Il y a 150 ans, on aurait dit au Mitnagdim, le grand maître de l'encyclopédie talmudique serait un chassid, il serait tombé en syncope. Syncope, priez pour nous. Et alors, là, bon. Perdons pas de temps. Et alors, là, un jour, un Rav Chassid a expliqué à ses Chassidim un enseignement. C'était tellement beau cet enseignement qu'on l'a rapporté au Rav des Mitnagdim de la même ville. Alors, le Rav des Mitnagdim a dit oui, c'est vrai, cet enseignement existe. Il a tout de suite donné la référence à bout portant. Hein, et ça se trouve dans le Talmud de Jérusalem, telle page, telle page, telle page. Mais c'est bizarre qu'un Rav Chassid connaisse ça. Alors on est allé dire au Rav Chassid, tu vois ce qu'il a dit le Rav de Mitnagdim, que c'est vrai ce qu'il a dit, ni c'est toi, ni tu as lu le Talmud de Jérusalem. Alors le Rav de Chassid m'a dit, allez lui répondre, c'est pas dans le Talmud de Jérusalem que je l'ai lu, je l'ai lu là où le Talmud de Jérusalem l'a lu. C'est profond comme ça. Ça y est, c'est clair. Alors ne vous préoccupez pas de questions pareilles. La Torah était d'abord orale avant d'avoir été mise par écrit. Et il y a des choses qu'on ne met pas par écrit. Ce qui doit rester oral. C'est clair? Mais ici, c'est d'ailleurs une des questions que nous allons étudier. Pourquoi tout ce qui concerne Hanouka est resté oral? Ce sont des petites choses que nous a rentrées dans tel ou tel texte.
Vous nous avez dit une fois que lorsqu'on n'était pas sûr, il fallait qu'on demande.
Ah, bien sûr, c'est sûr, je me rappelle. T'as raison. Si quelqu'un, je n'ai pas dit moi, si quelqu'un vous dit. Ça y est, c'est clair? Non. Écoutez, si vous entendez quelque chose qui vous semble approximatif, pas clair, demandez comment c'est écrit. C'est tout. Hein? Même à moi, vous pouvez demander, rassurez-vous. Je vous ai dit souvent, je ne vous dis rien que je ne peux pas vous montrer où c'est écrit. Okay. Maintenant, l'explication, la manière d'expliquer, ça c'est oral. Ça y est, c'est clair? Par exemple, je vous ai dit, la date de Yom HaTzmaout était connue avant l'événement de l'État d'Israël. Je peux vous montrer le livre. Voilà. La seule question, c'est comment ce livre est arrivé entre mes mains, si vous voulez. Bon, quelque chose de ce genre. Mais je ne vois pas d'autres questions. Possible. Et plus encore, si vous voulez, et comment ça se fait? Je ne sais pas comment vous dire. Ceux qui savaient que c'était la date ont été les plus étonnés quand c'est arrivé. C'est ça qu'il faut comprendre. Ceux qui ne savaient pas, bon, il n'y a pas de problème. Mais ceux qui savaient, et puis c'est arrivé, ils ont été vraiment étonnés. Quoi, ça marche? Bien. Non, je vous cite ça simplement pour vous dire qu'on parle de choses sérieuses. Et le vrai problème, c'est l'aveuglement de gens qui ne veulent pas voir ce qui se passe. Tout en parlant de Yom HaTzmaout. Ils sont vraiment à plaindre. Et cela, vous aurez beau leur montrer des livres écrits, ça ne s'arrange pas. Comment?
Ils ne reconnaissent pas Israël. Ils sont quand même en commun de s'inquiéter. Parce que c'est un...
Non, le Saint-Hier, il ne commémore pas. Non.
Vous avez dit, par exemple, après ça,
qu'on
commémorait avant la sortie
des Juifs. Oui. Mais non, mais justement, mais très bien. C'est précisément parce qu'ils étaient coupés de la tradition prophétique qu'ils n'ont pas pu lire l'Institut. Ils y croient, mais ils en sont coupés. Très bien, c'est une très bonne question. Bon. Bien. Alors, vous voyez, ça, c'est l'art et la manière d'arriver à l'heure sans avoir rien étudié. Bon, alors je vais vous raconter le Midrash qui nous parle de Hanouka du premier homme. Mais la règle est que chaque fois qu'il y a inauguration de la lumière, c'est le 25 Kislev. Chaque fois qu'il y a inauguration du rite de la lumière, c'est le 25 Kislev. Chaque fois que le temple a été inauguré, ça a été le 25 Kislev. Vous allez me dire, on s'est arrangé pour, Dafka. L'inauguration du tabernacle par Moïse au désert, c'était le 25 Kislev.
C'est marqué dans le texte.
Baro, toi, tu es toujours inquiet de savoir où c'est marqué.
J'aime bien
voir
exactement.
Oui, je sais. Qu'est-ce que je disais ? Oui, le premier homme. Bon, alors voilà, on va découvrir une chose simple. Dans la cohérence du calendrier hébraïque, l'époque du 25 Kislev, les 8 jours qui commencent le 25 Kislev, c'est le jour que les astronomes appellent le solstice d'hiver. Ah, ça y est, on découvre que ce jour-là, c'est pas n'importe lequel quand même, okay ? Et que ça a à voir avec la lumière. Qu'est-ce que c'est le solstice d'hiver ? Vous connaissez un peu ça, les équinoxes, les solstices? Bon. Non, vous ne connaissez pas? Bon, regardez dans le dictionnaire. Alors, qu'est-ce que c'est le solstice d'hiver? Voilà, c'est le jour où... je ne sais pas comment vous expliquer ça, attendez, je vais vous faire un petit schéma automatique. Voilà, vous savez que dans la révolution de la Terre autour du Soleil, il en résulte que dans 24 heures de jour... Il y a plus ou moins de journées, plus ou moins de nuits. Plus ou moins de nuits, plus ou moins de journées. Bon. Alors, le jour où la journée la plus courte et la nuit la plus longue, et où le lendemain, la journée va devenir un peu plus longue, la lumière va croître, c'est le solstice d'hiver. Ça y est ? Bon. C'est compris l'idée ? Vous remarquerez que dans la période qui va de Rosh Hashanah à Hanouka, le Shabbat commence de plus en plus tôt. La journée est de plus en plus courte. La journée, le temps de lumière dans le jour. Okay? Et puis vous remarquerez qu'à partir du Shabbat de Hanouka, eh bien, les journées vont commencer à grandir. Alors c'est ce jour-là du passage, okay, de moins de lumière à un peu plus de lumière, qu'on appelle le solstice d'hiver. Alors avec le 25 qui se lève, l'univers est en Hanouka. Il y a réinauguration de la lumière. Suivez ? Bon, on a commencé un peu à identifier. Et alors, et c'est vrai, dans beaucoup de traditions, perdues ou pas perdues, que cette époque de l'année, il y a un rite de la lumière. Alors, ce rite de la lumière est connu depuis le premier homme, chez les Hébreux aussi, okay, mais c'est avec les Maccabées qu'il a trouvé l'événement historique correspondant. Vous suivez ? Que les chrétiens, on va reprendre par la suite avec la Noël. Qu'est-ce qu'ils font les chrétiens à la Noël? Ils allument des bougies. Vous n'avez pas remarqué ça? L'illumination des lumières. Vous vous baladez à l'époque de Hanouka à Paris, c'est la Noël. Vous voyez les grands boulevards avec plein de Hanoukiot de Goy. Okay, vous voyez ce que je veux dire? Et nous verrons qu'effectivement, c'est pas pour rien que les chrétiens ont fixé ça au 25 décembre, pour garder le 25 de Kislev. Ah, vous ne croyez pas? Mais je vais vous l'expliquer en détail.
Une fête annuelle le 8 décembre.
D'autres choses. C'est lui. Et c'est très joli. Et ils ont d'affreux 8 lumières, non? En principe. Et ils commémorent quelque chose qui ressemble à ce que nous voulons. Ils ont appris des Juifs, mais c'est connu par les Lyoniques. Oui. On n'est pas encore arrivé au patriarche, on parle du premier homme déjà. Alors là, comment la Midrash explique. Explique ça. Ah, c'est le Beaujolais qui n'est pas passé, là, Lyon. Bien. Et l'histoire du premier homme, ça commence à Rosh Hashanah. Okay. Alors, à Rosh Hashanah, c'est le jour du jugement. Et puis voilà que le premier homme, son histoire a commencé par une faute. Il a été jugé à Rosh Hashanah, tout de suite. Okay. Et puis, à partir de Rosh Hashanah, raconte le Midrash, Adam Harishon, okay, il voit la lumière diminuer dans le monde. Alors il s'est dit, c'est de ma faute. La lumière va quitter le monde. Okay. Imaginez, c'était la première fois que ça arrive. Les jours se raccourcissent de plus en plus. Alors, on arrive au 25 qui se lève. Et le 25 qui se lève, la lumière recommence. Il dit, je suis sauvé. Alors, il a institué un rite d'inaugurer cette réinauguration de la lumière en allumant des lumières. Vous voyez ? Voilà le premier Hanouka de l'histoire. Vous voyez comment c'est relié à l'histoire du premier homme et au rythme naturel. Okay. Et vous saurez, ça vous exposerez dans les manuels spécialisés, que dans toutes les grandes traditions, à cette époque de l'année, il y a des rites de lumière. Même chez les païens, Baruch, ça vient du premier homme. Et c'est un rite authentique, mais ça dépend de la signification qu'on lui donne. Si on lui donne une signification païenne, ça devient un rite païen. Si on lui donne une signification authentique, c'est un rite authentique. Vous suivez ? Par exemple, qu'est-ce que commémore à la Noël que c'est Hanouka ? À la Noël que c'est Hanouka ? Les chrétiens, un mythe païen épouvantable. Okay ? Il commémore un rite païen, la naissance de l'homme-dieu. Oui. Mais ceux qui comprennent un peu ce qu'il y avait dans les traditions chrétiennes savent qu'il s'agit d'un mythe solaire. C'est la renaissance du soleil. Vous savez que leur jour, c'est le dimanche. Et le dimanche, c'est le jour du soleil. Okay. Et... Bon, je ne suis pas chargé de vous expliquer les rites du christianisme, mais je vais vous donner un petit remède qu'il y a dans la Kabbalah, un tout petit grave, que 25 et la lumière, ça va ensemble. Allez. Mais vous verrez dans la Torah, quand Dieu a dit que la lumière soit, quelle ? Yehi Or. Combien ça fait Yehi ? 25. Bon, mais une coïncidence. 25, ça va toujours avec la lumière. Alors c'est 25 qui se lève. 25 décembre. Et vous savez très bien que les chrétiens, dans leur calendrier, ont commencé leur année 8 jours après le 25 décembre. Quel ? J'ai l'impression que ça marche pas. On est circoncision, c'est le 1er janvier. Hein? Non, c'est plus marqué circoncision. Oui. Ils ont oublié leur origine juive. Et avec une erreur théologique colossale. Parce que c'est pas le jour de la circoncision qu'un enfant juif est juif. Il est juif à sa naissance. Et un juif normal est circoncis, c'est autre chose. Mais c'est pas la circoncision qui fait qu'il est juif. Vous comprenez ? Bon, il y avait une erreur là-bas chez eux, il y a beaucoup d'erreurs comme ça. C'est pas grave. Mais vous voyez, ils ont attribué une signification chrétienne au rite juif préalable et ils ont gardé les structures dans leur calendrier. Par exemple, leur Pâques, c'était la Pâques juive, mais ils vont lui changer de sens. Et ils vont lui assigner une date qui correspond à leur théologie. Vous voyez ce que je veux dire ? Bon, ça c'est des choses un peu compliquées, simplement pour vous donner un exemple. Mais pourquoi je vous ai cité la Noël ? Qu'est-ce que ça veut dire Noël ? Étymologiquement, ça veut dire l'an nouveau. Okay ? Ils font commencer l'an nouveau avec cette espèce de rite, okay ? Réapparition de la lumière du soleil, les 8 jours de la circoncision, cette espèce d'amalgame qu'il y a là-dedans. Okay ? Non, mais il y a quelque chose qui ne colle pas là-dedans. Pourquoi circoncision, ils le mettent 6 jours après? Ah, c'est 24 décembre, c'est raté. Bon, oui. C'est la nuit du 24, donc c'est le 25.
Les scientifiques disent que c'est le 22 décembre, enfin, le 22 juin et 21 juin et 21 décembre, 22 décembre, que la lumière commence. Donc j'ai l'impression qu'ils voient ça en fonction du soleil. La lune n'a pas du tout d'importance. Comme notre calendrier est
lunaire. Non. Là, Dafka, la date de Hanouka est comptée d'après le rythme du soleil dans le calendrier hébraïque. Seulement, je vous ai dit un peu trop rapidement, c'est reporté sur 19 ans. C'est pourquoi c'est le 25 décembre chez nous, le 25 qui se lève chez nous. Okay. Bien, alors je reviens au problème. Alors ça veut dire, et je ne veux pas rentrer dans les détails, ça veut dire qu'à chaque génération, la fête des lumières à Hanouka, elle ne s'appelle pas encore Hanouka, mais très rapidement elle va s'appeler Hanouka à partir de la sortie d'Égypte. Hanouka, ça veut dire inauguration. Okay. Le Hanech, inauguré. Elle s'appelle Hag Aourim, la fête des lumières. Pas Orot, mais Ourim, les feux. Ourim. Hag Aourim. Et, très rapidement, l'événement qui est consacré, c'est l'inauguration du temple. Bon, nous verrons pourquoi. Et alors on arrive donc à cette époque où on va diagnostiquer que l'événement définitivement qui va signifier le jour du 25 Kislev Hanouka sera l'événement de la victoire des Judéens contre les Grecs. Et alors, d'où notre question de cours, quoi vraiment on commémore? Est-ce que c'est la victoire? Est-ce que c'est la fiole, et pourquoi tout ça n'est pas mis par écrit dans un livre de la Bible ou dans un livre du Talmud? C'est clair? Allez, je commence maintenant le cours à proprement parler. Je voulais vous donner d'abord cette introduction pour que vous situez un petit peu dans le temps traditionnel. J'ai quand même le temps aujourd'hui, en 10 minutes, de vous parler au moins du premier point de la première question. Le premier point de la première question, c'est pourquoi c'est pas mis par écrit? Hein? Je vous ai dit, c'est pas grave. L'ordre n'est pas grave, les deux choses vont ensemble. Que je commence par là ou par là, vous allez trouver. Par exemple, quand vous marchez, bien sûr, il vaut mieux commencer par le pied droit. Et finalement, on marche comme ça, avec les deux. Et alors, je vais vous parler un peu de ce qu'on appelle le canon biblique. Canon, ici, ça veut dire... je ne sais plus comment dire ça en français. Le canon, ce n'est pas l'arme dont on parle... bien le canyon, les boyaux dans les montagnes, c'est pas ça. Le canon biblique, c'est la règle qui définit que tel livre fait partie de la Bible. Au moment de la fin de la prophétie, alors le Sanhédrin a décidé, voilà quels sont les livres que nous allons considérer comme révélés, à partir de là, tout livre qui serait écrit, même si c'est un livre de foi, n'est plus considéré comme un livre révélé. Ça ne fait pas partie du canon biblique. C'est clair? Bon. Et là, nous avons une grande controverse avec les catholiques, puisque les protestants ont repris le canon biblique des juifs. Les catholiques ont ajouté dans leur Bible des livres qu'on appelle les apocryphes. Apocryphe, c'est un mot qui vient du grec et qu'on appelle en hébreu les livres extérieurs, Sfarim Achitsonim. Achitsonim, les livres extérieurs au canon biblique. Okay. Je vais essayer de vous expliquer pourquoi. Il se passe 400 ans entre la fin de la prophétie hébraïque et le début du christianisme. Vous verrez dans votre tableau. Okay. Lorsque les chrétiens ont voulu organiser leur propre canon biblique, ils ont commencé d'abord à demander aux juifs quels sont les livres de la Bible. Okay. Et les juifs leur ont dit, les livres de la Bible, eh bien, ça s'arrête là. Ça s'arrête au temps de l'arrêt de la prophétie. Disons, au temps, comme vous verrez vous-même, au temps de Esther, Mardoché, l'événement de Pourim. Okay. Et alors, les chrétiens étaient très embêtés, parce qu'ils commencent 400 ans après. Alors, ils ont voulu faire la soudure. Et ils ont situé ces livres qu'on appelle les apocryphes, qui ne font pas partie de la Bible hébraïque, mais que vous trouvez dans les Bibles chrétiennes, catholiques. Okay. Je vous donne un exemple. Vous avez entendu parler du livre de Tobie, du livre de Judith, hein, le livre des Maccabées, c'est pour ça que je vous cite ça, okay, qui font partie des apocryphes. Est-ce que j'ai l'impression que vous ne comprenez pas l'importance du problème, okay. Et je vais essayer de vous montrer ça. Dans la tradition chrétienne, on prétend qu'il y a eu d'abord le temps de la Bible, qu'ils appellent l'Ancien Testament, et ensuite qu'il y aurait une bifurcation de judaïsme et christianisme. Ok. Alors, ils rattachent leur Nouveau Testament à l'Ancien Testament, comme ils disent. En réalité, il y a un mensonge épouvantable. Après le temps de la prophétie hébraïque, il se passe 400 ans de judaïsme, et 400 ans de temps culturel, c'est énorme. Okay. Et après, le christianisme apparaît comme un schisme du judaïsme. Et tout ce temps-là, c'est le temps du Beit Sheni. C'est les 400 ans du Beit Sheni, c'est-à-dire tout le temps de la Mishnah. Oui. Alors, on nous présente ce schéma-là, que l'Ancien Testament dérive, que le Nouveau Testament dérive de l'Ancien Testament pendant que les Juifs vont au Talmud. Okay. Alors qu'en réalité, il y a eu le temps de la Bible, de la prophétie hébraïque, tout le temps de la Mishnah, c'est-à-dire le Talmud, et après, le schisme chrétien apparaît 400 ans après. Vous suivez? Alors, les chrétiens, très embêtés de ce trou-là, ont essayé de le combler pour faire la soudure entre le temps des prophètes et le temps des apôtres. Vous suivez? Est-ce que c'est clair? Bon, alors c'est dans ce temps-là que s'est passé l'événement de Hanouka. Et il y a un livre dans lequel il y a énormément de renseignements d'ailleurs, dans lequel on peut prendre énormément de renseignements. C'est le livre des Maccabées, Maccabim, okay, qui fait partie du canon chrétien, mais pas du canon juif, parce qu'il n'est pas considéré par la tradition juive comme un livre inspiré de la manière dont la Bible est inspirée, puisque la prophétie a cessé entre-temps. Bon, alors ceci pour répondre à la question qu'il n'y ait pas de livre sur les Maccabées dans la Bible, c'est normal. La Bible s'est arrêtée bien avant. Vous suivez? Donc la question va rebondir. Alors on laisse de côté le problème du canon chrétien, vous avez compris, mais ça vous aurez à l'exploiter souvent. Okay, en fait, le christianisme, ce n'est pas une autre bifurcation du temps des Hébreux, c'est une hérésie qui a surgi du temps des Juifs. Vous suivez? Vous voyez bien la différence. Essayez d'imaginer par vous-même, 400 ans de temps culturel, c'est énorme. Et alors, la question rebondit, bon d'accord, il n'y a pas de livre sur les Maccabées dans la Bible, c'est normal, la Bible est arrêtée bien avant. Mais pourquoi pas dans le Talmud? Pourquoi nous n'avons pas un traité du Talmud qui parle de Hanouka? Il y a un traité tout entier qui parle du livre d'Esther, et qui s'appelle d'ailleurs Maseret Megillah. La Megillah, c'est-à-dire la Megillah d'Esther. On n'a pas une Maseret Hanouka, rien du tout. Pourquoi il n'y a pas, par exemple, un Midrash consacré à Hanouka? Je vous ai dit qu'il y a des bribes, de temps en temps, en parlant d'autre chose, on nous parle un peu de ce qui concerne Hanouka. Il y a quelques petits passages dans la Gemara de Shabbat, quelques autres dans la Gemara de Sota, Brachot, Nazir, mais enfin, des petites choses. Alors, il faut essayer de comprendre au fond pourquoi la tradition de Hanouka n'a pas été mise par écrit. Je vais vous donner la réponse tout de suite. Et ensuite, je prendrai le temps de vous expliquer cette réponse. La réponse, c'est que si on avait mis l'histoire de Hanouka par écrit, eh bien, ça aurait été le signe que les Grecs avaient gagné contre les Judéens. Bon, ça vous a l'air un peu paradoxal, incompréhensible. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Le conflit qu'il y a eu entre la Grèce et la Judée a de multiples dimensions. On essaiera d'en apprendre quelques-unes. Mais il y en avait une qui était extrêmement importante, et c'est pourquoi on a diagnostiqué que ce conflit était grave et que le miracle de la victoire des Judéens était si important. Les Grecs ont rencontré la culture judéenne. Les Grecs ont rencontré les Hébreux au temps des Judéens. Et ils ont diagnostiqué l'identité juive de l'époque, donc qui était l'exposant de l'identité hébraïque à cette époque, comme étant celle qui était absolument opposée à leur hégémonie culturelle. Et ils ont essayé de l'annuler. Mais par une stratégie que je voudrais bien vous expliquer, qui est très différente de la stratégie que Haman, par exemple, au temps de la reine Esther, a voulu employer pour détruire Israël. Là, nous sommes au problème de Hanouk. L'Empire grec ne voulait pas détruire la Judée comme province, comme société. Elle voulait détruire la Judée comme, disons, idéologie, comme doctrine opposée à la culture grecque. C'est-à-dire, les Grecs ne voulaient pas détruire les Juifs, mais le judaïsme. Alors que, par exemple, les Perses ne voulaient pas détruire le judaïsme, mais les Juifs. C'est-à-dire le danger au temps de Haman, c'était les Juifs qui étaient en danger. Okay. Alors qu'au temps des Grecs, c'était le judaïsme qui était en danger. Aujourd'hui, c'est les deux qui sont en danger. Vous verrez d'ailleurs que les ennemis d'Israël cherchent à atteindre Israël à tour de rôle par chacune des composantes de l'identité juive. Il y a trois composantes, le peuple, la Torah et la terre. On a essayé d'abord de détruire la Torah, on n'a pas réussi. Le christianisme tout entier, l'islam tout entier n'a pas réussi à enlever la Torah du monde. Okay. Alors on a essayé de détruire les juifs, on n'a pas réussi. Hitler lui-même n'a pas réussi. Alors maintenant, on essaye de nous couper de la terre. Et c'est pourquoi le conflit actuel de l'antisémitisme, qui s'appelle antisionisme, est tellement grave. C'est la troisième phase. Vous voyez ? On vous laisse vivre comme juif. Même avec la Torah, mais surtout pas en Israël. Vous avez remarqué ça ? On n'a pas réussi avec la Torah, on n'a pas réussi avec les juifs, on en essaye avec les Israël. Et chaque fois, il y a des juifs qui donnent un coup de main aux anti-juifs. Vous remarquez ça ? Alors, en général, c'est des juifs pieux, voire les nains. Alors, revenons au problème. Vous allez croire que j'en veux aux juifs pieux. Non, je ne leur en veux pas. C'est pire que ça. Alors, revenons au problème. Et c'est pourquoi ils transpirent. Ça se relie d'ailleurs. Comme disait l'autre, c'est toi qui l'as dit. Et là, ce qu'a voulu faire la Grèce contre la Judée, c'était dénaturer l'identité juive. Couper les juifs de leur identité profonde, c'est-à-dire la Torah. Un exemple. Parce qu'on n'a pas beaucoup de temps aujourd'hui. C'est eux qui ont décidé de traduire la Torah en grec pour l'intégrer dans le patrimoine culturel de l'universel humain dirigé par la culture grecque. On va prendre ce livre et on va en faire un des livres importants de la sagesse humaine dans la bibliothèque grecque. Voilà un exemple. Vous savez que les Grecs ont failli réussir. Regardez 2000 ans après, 2500 ans après. Quand on parle de la Bible, dans la civilisation contemporaine, la Bible apparaît comme étant le livre des chrétiens et aussi des juifs. Je ne sais pas si vous avez remarqué ce qu'ils ont réussi à faire. Est-ce que c'est clair ce que je vous dis là? On commence par dire, comme ça, pour faire plaisir à l'auditoire, judéo-chrétien, mais c'est bien entendu que la Bible, c'est le livre des chrétiens. Les juifs aussi s'en réclament de façon anachronique. Okay. Et tout se passe comme si l'évidence culturelle contemporaine, on cite la Bible, ah, ça c'est chrétien, c'est-à-dire grec. Vous avez remarqué? Okay. Ils se sont appropriés. Cette identité, c'est ce qu'ils essayaient de faire depuis le début. C'est ce que les Maccabées ont réussi à empêcher. Et j'y arrive. Ils nous ont traduit la Bible en grec, ils nous ont traduit en latin par la suite. Okay. Ce qui fait qu'il y a cette évidence culturelle que bien évidemment, ça leur appartient. Okay. Et c'est aux Juifs de se justifier. Remarquez que la Bible... Je me rappelle qu'une des premières louanges que le père Riquet, après la guerre, avait fait devant un public chrétien, il m'avait invité, une louange des Juifs, leur dit, et puis vous savez, ils lisent les psaumes. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Bon, oui, je crois que juste où ça peut arriver. Heureusement, j'étais dans la salle, parce qu'on aurait demandé à n'importe quel juif, autre juif qu'il y avait dans la salle, s'il avait jamais lu les psaumes. Je leur ai dit, qu'est-ce que c'est? Les fables de La Fontaine, oui, il sait. Non, on est un peu sorti de ce temps-là, mais on n'a aucune idée à l'époque, en France, quelle ignorance crasse il y avait dans le milieu juif de qu'est-ce que c'est que même la Bible. Je me rappelle, quand j'étais président des étudiants, naïf, on avait organisé des salles d'études bibliques avec les étudiants catholiques et protestants. On a arrêté ça à la deuxième séance. Parce que eux, ils vont citer les versets à bout portant. Les juifs, ils se demandaient, qu'est-ce que c'est ça, Jérémie? Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Vous allez me dire, ça n'a pas tellement changé. Ça a quand même un peu changé. Un petit peu. Il y a quand même une idée chez les juifs que la Bible, ça existe. Mais pas plus. Je vous ai parlé une fois de Yankelevitch. Qui est un... Bon, je reprendrai la semaine prochaine, mais... Mais qui est un homme que j'aime beaucoup. Et ça vous dit quelque chose, Vladimir Yankelevitch? Eh bien, c'est un homme qui est très juif de sentiment national. Il n'est pas forcément sioniste, mais enfin, il est juif de sentiment du peuple juif. Il connaît par cœur les évangiles en grec et en latin. Il ne connaît pas un verset en hébreu. Alors, dans toute son œuvre, il cite les paroles de la Bible ou des évangiles, mais à travers les traductions chrétiennes. Vous voyez? Et comme si ça va de soi que c'est une source grecque qu'il cite, mais non pas hébreu. Et puis, hein, par façon de parler, on sait que aussi les juifs se réclament de ça, comme si on prenait ça aux chrétiens, mais que la Bible, c'est premièrement chrétien. Okay? Ils sont arrivés à ce tour de force de faire croire pendant 2000 ans, dans un temps culturel énorme, qu'Israël, c'est les Romains. Qu'Israël, c'est le Vatican. Et vous comprenez ce que je veux dire? Que le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, ça c'est les Italiens. Ou les Grecs. Ou... Vous avez vu que où commence cette entreprise? En ce temps-là de Hanouka. Si je vous ai cité ça, c'est pour vous montrer à quel point ils ont réussi, ou ils ont failli réussir. Je vous donne un petit exemple. À quel point on a été intoxiqué par... Et cette lutte n'est pas finie. Et c'est la raison pour laquelle c'est pas écrit encore. Exactement. Et plus, on pourrait quand même avoir une base écrite. C'est ça, non? Non, c'est très bien. Ça va dans ce sens-là. Oui, et cette lutte n'est pas finie. Ce qu'il voulait, c'est nous faire perdre la mémoire. Parce que qu'est-ce qui fait notre lien à la Torah? C'est la Torah orale. Alors, si on avait mis par écrit le récit de la victoire de la Torah orale sur le livre, eh bien c'est le livre qui aurait été le signe que les Grecs ont gagné. Vous y êtes? C'est-à-dire, l'essentiel de ce qu'il y a d'oral dans la Torah orale, c'est Hanouka. Et ensuite, nous allons lire deux lignes de Gemara. Enfin, la prochaine fois, je vais vous donner le texte qui montre que c'est bien de ça qu'il s'agit. Je vous donne un exemple à quel point ils nous ont eu. Les Maccabiades. Qu'est-ce que les Maccabiades? C'est Dafka des Olympiades. Vous remarquez ça? La ferveur des écoles juives religieuses qui organisent les Maccabiades. Ils ne se rendent pas compte à quel point ils se sont fait avoir par les Grecs. Et ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire du sport, mais pas du sport grec. Et je vous dirai la différence. Vous voyez, quand les juifs pieux, je ne sais pas moi, l'école Lucien de Hirsch ou l'école Maïmonide qui participe au Maccabiade, sous la présidence du grand rabbin de Paris d'ailleurs, avec une fierté religieuse naïve, énorme, on fait les Maccabiades. Compétition sportive à Hanouka, Maccabiade. Vous voyez à quel point on s'est fait avoir ? Est-ce que c'est clair ? C'est-à-dire les Grecs ont gagné jusque-là. Alors j'allais dire, qu'est-ce qu'il faut faire à Hanouka ? Ça, on verra la semaine prochaine. Mais en tout cas, Dafka, faire des Olympiades au nom des Maccabis, je suis persuadé que là où ils sont, ils doivent se dire, mes Juifs sont fous. De faire ça en plus au nom des Maccabis. Mais c'est la même chose. C'est de ça que je parle. Vous savez, qui a amené les Maccabiades ici ? C'est les Juifs de la Gola. Qui a amené les Maccabiades ici ? C'est les Juifs de la Gola.
C'est comme les cadeaux qui se font, c'est
une copie de... Bon, cadeau, c'est toujours bon à prendre. Non, pas évident.